Nous lisons dans Apocalypse 7, Apocalypse 7, à partir du verset 9. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des vieillards prit la parole et me dit « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Amen. » Voilà, c'est une scène extraordinaire, une scène du ciel. Et il y avait une multitude d'hommes et de femmes, de toutes les tribus, de toutes langues, de toutes nations, qui étaient habillés en robe blanche. La robe blanche dans la Bible, c'est le symbole de la sainteté, de la pureté, de la droiture, de la justice. Et ils étaient habillés en robe blanche. Et avec des palmes. Et ceux qui connaissent un peu l'histoire savent que les palmes, c'était un symbole de victoire. Et il disait une phrase extraordinaire, « Le salut appartient à notre Dieu et à l'agneau. » Une façon de dire, « Nous n'avons pas gagné notre salut. » Une façon de dire, « On n'a pas produit notre salut. » Le salut nous a été donné par Dieu et par l'agneau. Ça a été un cadeau. Beaucoup de gens sont loin du salut parce qu'ils veulent gagner le salut. Beaucoup de gens ne bénéficient pas du salut parce qu'ils veulent travailler, produire leur propre salut. Mais ces gens-là, ils disaient, le salut est à notre Dieu. Mais il nous l'a donné. Et nous sommes dans la joie. Et dans la suite, qu'est-ce qui est écrit? On pose la question à Jean qui voyait cette vision. C'est qui ces gens-là? D'où sont-ils venus? Jean dit, mais toi qui me poses la question, sûrement tu sais. Et le vieillard répond. Il lui dit, c'est les gens qui sortent de la grande tribulation, de la grande souffrance. Et c'est comme si il voulait nous donner un enseignement. Il dit, ils ont blanchi leur robe dans le sang de l'agneau. C'est le sang de l'agneau qui les a blanchis. Donc ce n'est pas eux-mêmes. C'est comme, vous voyez, dans des chaînes de production, il y a des bouteilles qui passent et puis il y a un appareil qui les remplit de jus ou de tout ce qu'on veut. Et les bouteilles passent. Et ces gens-là étaient comme ces bouteilles qui passent. Et ils sont plongés dans le sang de l'agneau. Ils sont purifiés, lavés. Bien-aimés, un jour Paul s'est écrié, « Comment les gens peuvent-ils rater un si grand salut ?» Juste, on te demande de te purifier. On ne te dit pas à toi-même de te purifier. On ne te dit pas à toi-même de te sauver. Il y a quelqu'un qui vient qui dit, « Je me propose de te purifier pour que tu accèdes au royaume de Dieu. » Oh, comme les gens sont compliqués. La Bible dit, Dieu a fait les choses droites, mais les hommes cherchent des détours. C'est tellement simple le salut. La grande question, c'est est-ce que tu veux du salut? Le salut est un cadeau de Dieu. Le monde nous montre que le salut n'est pas sur la terre. Les événements sportifs des jours précédents nous montre que le salut, ce n'est pas dans le sport. Tu peux soutenir une équipe, mais cette équipe-là va te décevoir. Parce qu'elle va échouer. Les événements qui précèdent, des jours précédents, nous montrent que le salut ne se trouve pas dans l'argent. Nous voyons aux infos une famille, la femme la plus riche de France, qui est en conflit avec son enfant, toujours à cause du problème d'argent. Est-ce que c'est ça, une bonne famille? L'argent les sépare. Donc l'argent ne rend pas heureux. Le monde nous montre que le salut n'est pas sur terre. Voyons ce qui s'est arrivé à la Grèce. Voyons ce qui arrive dans les orphelinats, les enfants qui sont violés. Voyons ce qui arrive dans beaucoup de choses que nous sommes en train de manger, chimiquement produits, quasiment des poisons. Le salut ne se trouve pas sur la terre. Regardons comment des gens qui étaient beaux, belles, forts, costauds autrefois, à 80 ans, ce qu'ils deviennent. Il devient de l'oc. Le salut ne se trouve pas sur la terre. Lorsque nous voyons, nous assistons à des élections, à la fin des élections, il y a des pleurs, il y a aussi la joie. Mais la joie même, 5 ans plus tard, après d'autres élections, se transforme encore en pleurs. Le salut ne se trouve pas ici. Le salut se trouve au ciel. Dieu a préparé le ciel pour le salut. Nous avons connu des gens qui jouaient avec des voitures. Je me souviens dans mon pays d'origine, nous avions un ministre qui s'habillait en concordance avec sa voiture. Donc si son costume est rose, il va sortir avec une voiture rose. Si son costume est blanc, il va sortir avec une voiture blanche. Si son costume est noir, voiture noire. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il est? Dans le tombeau, quelle voiture tu vas prendre? Dans le tombeau, quelle chaussure tu vas mettre? Le salut ne se trouve pas sur la terre. Le salut se trouve au ciel. Dieu nous le propose aujourd'hui gratuitement. Entends la voix de Dieu. Pourquoi rater quelque chose d'extraordinaire comme ça? La Bible nous décrit une multitude. Donc il y avait beaucoup de gens qui en ont profité à cette époque, à ce moment-là. Ils ont dit, oh, c'est gratuit, je prends. Mais il y a des têtus qui ne veulent pas de la facilité, parce que la facilité n'honore personne. Ils veulent produire leur salut par leurs propres efforts. Comme ça, ils seront honorés. Ils veulent produire leur salut par leur propre raisonnement. Comme ça, ils seront honorés. Et le salut facile de Jésus, ils n'en veulent pas. Le vieillard a dit, ils ont blanchi leur robe dans le sang de l'agneau. Lisons Matthieu 27. Verset 44. Matthieu 27. À partir du verset 44. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani ?» C'est-à-dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Eli. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Eli viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Alors nous avons l'habitude de dire que Dieu, le Père, a abandonné son Fils, puisque son Fils a porté nos péchés à la croix. Et donc, c'est pourquoi il devait être jugé à notre place. C'est vrai ce qu'on dit. Jésus-Christ a porté nos péchés. C'est pourquoi on dit que ces gens-là avaient lavé leur robe, blanchi leur robe dans le sang de l'agneau. C'est-à-dire qu'au lieu que nous soyons condamnés, Jésus-Christ a été condamné à notre place à cause de nos péchés. Il a été crucifié. Son sang a coulé. Et le sang, c'est le symbole de la vie. Dans Lévitique 17, il est écrit que le sang, c'est la vie. Donc, puisque notre vie devait être condamnée, Jésus a donné sa vie pour nous. Donc, son sang a coulé. Il a donné sa vie par son sang qui coule. Et il a effacé ainsi nos péchés pour que nous puissions recevoir la vie éternelle. Alors, c'est une scène très douloureuse. On la connaît. Où le Fils dit, Dieu, tu m'as abandonné. Mon Père, tu m'as abandonné. Mais il fallait qu'il abandonne. Parce qu'il avait sur lui nos péchés. Alors, bien-aimés, vous savez, Dieu, c'est quelqu'un qui est fidèle aux règles et aux règles de justice. On a l'habitude de dire que Christ a été abandonné. Mais bien aimé, en réalité, Dieu ne pouvait plus le voir parce qu'il avait le péché. La Bible, il est écrit que les yeux de Dieu sont purs. Assister au péché, ça ne colle pas avec Dieu. Il n'y a pas que le Fils qui a souffert. Le Père a souffert de ne pas voir son Fils. Bien-aimé. Imaginez, bien-aimé, que votre fils de 10 ans, 12 ans, après l'école, vous ne savez plus où il est. Vous cherchez pendant 2 jours. Imaginez votre état, bien-aimé. De ne pas voir votre fils, votre enfant. Imaginez. Vous avez dit, mais lui, il est Dieu. Mais là, on le voit bien. Et son fils dit, tu m'as abandonné. On le voit bien qu'il y a des ténèbres. Les yeux de Dieu ne contemplent pas le péché. Or, Jésus-Christ a été fait péché. Donc, il a pris nos péchés. Donc, lui, tout entier, il a été considéré comme ça. Il fallait qu'il soit condamné. Et Dieu a cherché son fils. Quelle souffrance, bien-aimé. Alors devant cela, bien-aimé, il y a des courageux qui veulent condamner Dieu. Il y a des courageux qui veulent dire que Dieu est mauvais. Il y a des courageux qui veulent se servir de leur souffrance pour dire que Dieu est mauvais, bien-aimé. Il est écrit dans Hébreux 10. C'est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Après tout ce qu'il a fait, après sa souffrance, bien-aimé, il est écrit qu'un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans. Pour vous, peut-être, c'était 3 heures de ténèbres, mais pour Dieu, ça n'a pas été 3 heures de ténèbres. Nous n'avons pas les mêmes calculs de temps. Pour Dieu, même une seconde, c'était grave de ne pas voir son fils. Quand nous, on suit aux infos qu'il y a un enfant qui a disparu, ça fait 2 jours. Pour nous, c'est 2 jours. Mais pour la maman de cet enfant-là, pour le papa de cet enfant-là, ce n'est pas 2 jours. Chaque seconde est longue. Chaque heure est longue. Et le père a dû endurer comme ça, de voir son fils souffrir, disparaître de ses yeux, alors qu'il était innocent. Tout ça à cause de quoi? À cause du péché. Vous savez, la gravité de certaines choses, on les reconnaît par les conséquences aussi. On peut discuter avec certaines personnes qui trouvent que haïr les gens, ce n'est pas mauvais. Trahir les gens, c'est plus ou moins bon. Ça peut arriver à tout le monde, comme on a entendu. Donc insulter son entraîneur, ça arrive. Donc comme on a entendu à la télé hier. Donc un joueur qui ose insulter, non seulement c'est son chef, son entraîneur, mais c'est quand même un aîné en âge. C'est quelqu'un qui représente le pays. Donc le joueur ose l'insulter. Et à la télé, les gens ben, disent, oui, ça arrive dans les vestiaires, c'est comme ça. Quoi, bien-aimé? Les gens ont perdu le nord. Aujourd'hui, on peut discuter. Il y a des gens qui disent, oui, bon, j'ai fraudé parce que je n'avais pas l'argent. Ils relativisent les choses. Il y en a qui disent, j'ai tapé parce qu'il m'avait énervé. On relativise. Ah ben, j'ai divorcé parce qu'il avait exagéré. Toujours relatif. Je me suis couché avec la colère parce qu'il avait exagéré. Mais bien-aimé, les choses que tu minimises, voilà leurs conséquences. La souffrance du Dieu qui a fait les cieux et la terre. La souffrance de son fils bien-aimé. La mort atroce de Jésus-Christ. C'est la preuve que le péché est grave. Et Jésus est venu sur terre pour porter nos péchés. Le péché est grave, mais le salut est simple. Dieu, malgré la gravité du péché, qui est prouvée à travers la scène de la mort de son fils, il dit, je peux laver quiconque vient. Il est écrit dans Jean 6, 37, je ne rejetterai personne qui viendrait à moi. C'est Jésus qui parle. Le péché est grave. Mon cher, ma chère, humilie-toi. Les temps sont proches. Jésus-Christ revient. Ne fais pas de l'église une salle de cinéma. Ne fais pas de l'église une salle de défilé de mode. Les grands défilés de mode, on les voit à la télé, donc tu vas rivaliser avec eux. Ne fais pas de l'église une salle d'ambiance. Sois sincère avec ton Dieu. Répands-toi. Les temps sont proches. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Vous vous imaginez devant Dieu, tu vas dire quoi? Ah, mais tout le monde faisait comme ça. Il est écrit dans Matthieu, au chapitre 25, il dira à ceux qui sont à sa gauche, éloignez-vous de moi. Allez dans le feu qui a été réservé à Satan. Il va le dire avec colère. Qu'est-ce que tu peux dire devant quelqu'un qui a laissé son fils mourir, souffrir à cause de ton péché? Il va te poser la question, mon cher, ma chère, tu voulais que je fasse quoi? J'ai déjà donné mon fils. Qu'est-ce que je pouvais donner d'autre? Souvenez-vous dans Jean 3, 16, il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Donc Dieu n'avait pas cinq fils, un seul fils. C'est ce seul fils qu'il a donné pour le pardon de tes péchés. Gratuitement, sans effort. Bon, tu vas lui dire quoi? Qu'il fallait qu'il fasse quoi encore? Qui t'envoie cinq pasteurs, il dit, mais oui, mais le message est le même. C'est ma parole qui sauve. Tu vas lui dire quoi? Que les chrétiens qui étaient autour de toi n'étaient pas exemplaires, il va te dire, mais ce n'est pas eux qui sauvent. C'est Jésus, mon fils, qui est le salut. Le salut appartient à l'agneau. Tu vas dire quoi à Dieu? On avait un pasteur qui faisait des magouilles, mais il va te dire, mais ce n'est pas ce pasteur-là qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Qu'est-ce que tu vas faire, bien-aimé? C'est l'heure de la décision. Ce n'est pas un amusement, l'Église. Dans beaucoup de milieux, c'est devenu culturel. L'Église, ce n'est pas culturel. Chaque seconde compte, bien-aimé. Chaque heure compte. Il est écrit dans 2 Corinthiens 6, « Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. » Chaque moment compte. Le salut est gratuit. Il appartient à Dieu, il te le propose. Viens avec ta robe sale, être blanchi pour être blanchi dans le sang de l'agneau. C'est gratuit, bien-aimé. Il n'y a aucun effort. Il y a juste une décision à prendre. À dire, Seigneur, je ne veux pas de la mauvaise vie. Je renonce à ça. Ne te pose pas les questions, comment j'y arriverai? Non. Le salut est un cadeau. Si on te propose de te donner une voiture, est-ce que tu peux encore te poser la question, comment j'aurai la voiture? Non, mais on te propose de te la donner. Celui qui te donne le salut, il est écrit dans Jude 24, il le préservera encore, parce qu'il te donne. Le salut, ce n'est pas comme un objet, c'est une vie. Et celui qui donne cette vie la conservera. C'est toute cette vie qu'il te donne. Il te donne le ciel, il te donne un changement total. C'est un cadeau. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est un cadeau, ce n'est pas un effort à faire. Tu étais cochon, on te transforme en aigle. Comment peux-tu poser la question encore? Je resterai vraiment aigle. Mais oui, mais attends, mais on t'a fait aigle, tu seras aigle, tu veux être quoi encore? N'aie pas peur. Beaucoup disent, je ne veux pas me baptiser aujourd'hui, j'ai peur de tomber plus tard. Mais tu ne te baptiseras jamais. Je ne veux pas m'engager aujourd'hui, j'ai peur de tomber plus tard. Je peux te dire que nous tous tels que nous sommes là, aucun peut dire que sa chair est parfaite. Donc si on doit raisonner par rapport à la peur de tomber, nous tous, on ne sera plus sauvés. Mais nous croyons que la vie éternelle, c'est tout cela. C'est la victoire sur le mal. Et donc le cadeau, le contrat que nous faisons avec Jésus, c'est quoi? Jésus, le salut ne se trouve pas dans le monde. Je le vois. Nous, on a connu des grands joueurs, mais qui, la veille d'une grande compétition, ont eu des accidents de genoux, de chevilles. On a connu des gens très intelligents, mais qui, juste une année, pour qui juste une année a suffi, pour qu'ils se lancent dans des bêtises et loupent toute leur vie. Le salut ne se trouve pas dans le monde. Le salut se trouve dans le ciel, en Dieu. Et donc tu dis, Seigneur, j'ai envie des choses du monde, mais je vois clairement avec mon intelligence, je vois que ça finit toujours mal. Et ta parole me le dit aussi. Et ta vie est belle, Jésus. Une vie de liberté, où on fait du bien aux gens, où on se sacrifie pour les autres. J'ai envie des choses du monde. Mais je veux t'imiter, Jésus. alors sauve-moi. Et là, bien-aimé, on te prend comme un vêtement, on met dans la machine à laver. Dans la machine à laver, qu'est-ce que toi tu vas faire? Rien. Elle va tourner. Le vêtement, lui, il danse dans l'eau. Ça tourne et puis ça sort propre. Allez, on passe le repassage. On te présente devant Dieu. Vas-y. Et dans le contrat, qu'est-ce qu'il y a encore dans le contrat? À chaque fois qu'il y aura un souci, la machine à laver est toujours là. Amen. C'est une machine à laver qui ne meurt jamais. On te dit, 1 Jean 1,9, si nous commettons des péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Il suffirait qu'on revienne encore dire, machine, je suis là. Lave-moi. Et ils ont blanchi leur robe dans le sang de l'agneau. Amen. C'est ce qui fait de Jésus-Christ notre honneur, notre joie. On ne peut pas parler d'un pasteur ici. On ne peut pas parler d'un individu. Parce que c'est Jésus-Christ qui est notre salut. C'est lui qui a donné sa vie. C'est lui la machine. Leurs robes ont été blanchies dans le sang de l'agneau. Pourquoi ne pas profiter d'un tel salut? Pourquoi continuer à vivre sans maître, sans Dieu et finir mal? Qu'est-ce que tu diras à Dieu le jour du jugement? Bien-aimé, c'est le jour du salut. Viens blanchir ta robe. N'aie pas peur du lendemain. Le contrat du salut prévoit aussi le lendemain. Amen. Vous savez, les gens qui ont des voitures assurées tout risque, ils roulent vraiment tranquille, quoi. Il y a même des assurances que j'ai entendues en Belgique où dès que tu as un problème, on te donne une nouvelle voiture. Alors, vous imaginez ces gens-là, ben, ils vont rouler, ils peuvent casser une lampe, c'est pas grave. Bien-aimé. Donc, parce que on leur a donné une voiture avec un contrat pour l'avenir. Nous, on nous a donné une voiture avec un contrat pour l'avenir. On nous a dit, l'avenir est entre les mains du Seigneur. Tout est compris. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, l'avenir aussi. Vous savez, on voit cela dans quel passage? Dans Romains 8, 1 à 2. Il est écrit ceci, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ est plus forte, étant plus forte que la loi du péché et de la mort. Donc en nous, il y a une loi qui va résister à la loi du péché et de la mort. C'est comme quand l'avion vole. La pesanteur continue à exister. Si on coupe le moteur, l'avion tombe. Le moteur de l'avion et les ailes de l'avion permettent de créer une nouvelle loi qui est vainqueur de la loi de la pesanteur. C'est pourquoi l'avion reste en haut. Nous sommes comme cela. Le contrat que nous signons, c'est aussi pour recevoir cet esprit de vie qui va nous maintenir dans le salut. Je passe à la deuxième phase. Les chrétiens. Beaucoup mènent une vie triste et difficile parce qu'ils comptent sur leurs propres efforts. Ils veulent être sauvés par eux-mêmes. Mais nous venons de lire, ils ont blanchi leur robe dans le sang de l'agneau. C'est clairement écrit. Et eux-mêmes, ils ont dit de leur bouche, ceux qui portaient les robes, ils ont dit, le salut appartient à notre Dieu et à l'agneau. Donc, aujourd'hui, si vous nous voyez, c'est parce que on nous l'a donné. Alors, beaucoup de chrétiens mènent une vie triste parce qu'ils veulent se laver eux-mêmes. Ils veulent se purifier eux-mêmes. Or, il est écrit, le juste vivra par la foi. Mais puisque la parole dit « Tout est accompli » dans Jean 19,30, Jésus-Christ a réglé la question de ton salut. C'est vrai qu'il y a des moments où tu vas peut-être pécher. Mais ça ne change pas le fait que la question du salut a été réglée. Et si tu es vraiment sauvé, tu retourneras à 1 Jean 1,9. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Maintenant, les gens disent, mais c'est trop facile. On va commencer à pécher gratuitement et faire ce qu'on veut. C'est faux. La loi de l'esprit de vie en Christ Jésus est plus forte. Romains 8, 1 à 2. Que la loi du péché et de la mort. Quelqu'un qui est sauvé ne sera pas bien dans le péché. Comptons sur ce qui est écrit. Ne faisons pas des raisonnements en disant, mais oui, mais donc les gens pourraient pécher et revenir. Non, ce n'est pas un appel à pécher. C'est un appel à la vérité. Tu ne peux pas te sauver par toi-même. Comme aujourd'hui, nous entendons des gens dire, pasteur, et il vient au bureau pour te demander des conseils. Lui-même, il t'explique ce que tu dois lui donner comme conseil. Donc, il veut se conseiller lui-même en passant par toi. Donc, il y a des gens qui veulent se sauver eux-mêmes en passant par Dieu. Il y a une qui m'a dit, pasteur, bon, je viens parce que Dieu m'a montré que c'est toi qui dois m'aider. Mais il faut m'aider comme c'est... Moi, j'ai dit, oh, mais elle sait comment je dois l'aider. Mais qu'elle sait de lui elle-même. Bien-aimée. Donc, il y en a qui veulent se sauver en passant par quelqu'un d'autre. Non, le salut est gratuit. Tu viens seulement. Vous savez, je n'ai jamais vu des êtres plus beaux que les bébés. Les bébés sont les êtres les plus bibliques. On les prend, ils se réveillent, ils crient un tout petit peu, après on les prend. Allez, on enlève les habits, on les lave. On ne voit pas un bébé, dit non, je vais moi-même me frotter le dos. Non, on lui frotte le dos, il est là, il regarde. On frotte les pieds, il est là, il regarde. Après, on remet encore. Et il ne dit pas, non, je veux la veste rouge. Non, donc on met seulement, il prend. C'est pourquoi Jésus a dit, ce sont ceux qui ressemblent aux enfants qui iront au ciel. Il y a des gens qui viennent à Dieu pour être sauvés. Mais ils sont en colère contre eux-mêmes encore. Ah, j'ai encore fait ceci, Mais qui t'a dit que c'est toi qui vas te sauver? Viens seulement à la machine tranquillement. Tu fais seulement les mains comme ça. Et les anges enlèvent les habits, purifient, remettent de nouvelles robes. Allez, qualifié pour le ciel. Et tu tiens la palme, mais qui est un cadeau, ça ne vient pas de toi. Et quand tu vis comme ça, tu dis, mais tout ça c'est grâce à qui? À Jésus. Alors comment ne pas danser pour lui? Comment ne pas le louer? Bien-aimés, beaucoup de chrétiens souffrent parce qu'ils veulent se sauver eux-mêmes. Croyons en l'expiation. Croyons que Jésus-Christ nous a sauvés. On n'a pas vu quelqu'un sous anesthésie sur la table d'opération dire au médecin, non, souvent il y a 4 médecins. Bon, c'est toi qui commences. Et puis l'autre, non, vous commencez par m'ouvrir par au bas du ventre. Ensuite, non, quand quelqu'un est sur la table d'opération, il est couché et le médecin travaille tranquillement. Soyons couchés et laissons Dieu travailler. Une fois de plus, j'entends des gens qui disent, mais c'est trop facile. Oui, le salut est facile. Je ne peux pas changer la Bible, bien-aimé. Le salut est facile. C'est un cadeau. Je n'ai jamais vu un cadeau difficile. Qui peut me donner un exemple de cadeau difficile? Le cadeau, si tu es là, on te donne. Tu n'as qu'à te prendre, c'est tout. Quelqu'un ne peut pas dire, j'ai souffert pour avoir un cadeau. Oh non, le cadeau, c'est un cadeau. On te l'a donné. Tu n'as fait rien du tout. On te l'a donné. Tout ce qu'on te demande, c'est de tendre ta main et prendre le cadeau. Parce qu'on ne va pas te l'imposer. On demande ta collaboration, ton acceptation. Est-ce que tu acceptes le salut? Tu acceptes de vivre la vie de Jésus? Eh bien, on te la donne. Mais oui, mais j'ai des péchés blanchis dans le sang de l'agneau. Mais oui, mais mon avenir, Romains 8, 1, 2, la loi de l'esprit de vie. Ça fait partie du Pâques. Aujourd'hui, on parle de Pâques. Hein? Voilà, dans le Pâques, il y a le sang de l'agneau. Dans le Pâques, il y a la Bible. Dans le Pâques, il y a la loi de l'esprit de vie, l'Esprit Saint qui est en toi. C'est dans le Pâques. Dans le Pâques, il y a la vie éternelle. Dans le Pâques, il y a aussi les épreuves. Hein? Voilà. Pour permettre que tu restes toujours simple. Parce que s'il n'y a pas d'épreuve, les premiers qui disent « Jésus m'a sauvé » vont commencer à dire « Je me suis sauvé ». Alors le Seigneur va te rappeler « Regarde comment tu es tombé là. C'est moi qui te sauve. Allez, reviens à la machine tranquillement. » Bien-aimé, laissons-nous travailler par le Seigneur. Acceptons que le salut vienne de lui. Ne nous créons pas de propres efforts. Vous savez que quelqu'un qui croit en ce que nous disons ce matin, il passera plus son temps à prier pour les autres. Parce que lui, il est déjà satisfait. Il est bien, il est sauvé. Donc il passera son temps à prier pour l'humanité, pour les gens qui souffrent, pour l'Église. Parce que lui, il est déjà blanchi. Or, la plupart d'entre nous passons notre temps à prier pour nous-mêmes. Ah, si telle tentation pouvait disparaître, je vais servir Dieu avec force. Ah, si je pouvais être exaucé dans ceci, je vais m'engager encore. Ah, prière égoïste tout le temps. Un vrai chrétien dira, je suis sanctifié, lavé dans le sang de l'agneau. J'ai reçu le Pâques éternel. Maintenant, il ne me reste plus qu'à imiter mon maître, mais donner pour les autres. Il ne reste plus qu'à imiter mon maître, vivre pour mon papa au ciel, bien-aimé. Lavé dans le sang de l'agneau. Laissons-nous faire. Ne résistons pas. Ne cherchons pas à produire notre salut. Ne nous, nous jugeons pas comme si c'est nous qui étions Dieu. On peut se juger dans le sens de voir ce qu'on fait, si c'est bien ou mal. Mais pas dans le sens de condamner. On n'est pas Dieu pour se condamner soi-même. C'est Dieu seul qui condamne. On n'est pas Dieu pour condamner les autres. Ce n'est pas notre travail. Notre travail à nous, c'est de nous réjouir du salut que nous avons reçu à travers le blanchiment dans le sang de l'agneau. Et de passer notre temps à faire en sorte que d'autres soit lavé dans le sang de l'agneau. Amen. Réveillons-nous. Nous avons des combats très difficiles dans la fin des temps. Nous avons besoin de comprendre la simplicité du salut. C'est ça qui sera notre force. Qu'on nous jette en prison, qu'on nous critique, qu'on nous calomnie, on saura que tout est accompli à la croix. Je suis heureux. Voilà, tout est accompli. Jésus-Christ a tout fait. Je suis bien. De quoi vais-je me plaindre? Tout est accompli. Je suis blanchi dans le sang de l'agneau. On ne passera pas notre temps à chercher à nous défendre. On ne passera pas notre temps à chercher à prouver qu'on est honnête, puisqu'on ne l'est pas. Amen. On est juste blanchi dans le sang de l'agneau. La différence qu'il y a entre nous et les faux chrétiens, et les païens, c'est que nous, on a la même chair qu'eux, mais on a reconnu que notre chair était mauvaise. On a reconnu qu'on était perdu. On est venu tranquillement comme des bébés que quelqu'un d'autre nous nettoie et nous habille. Là, c'est la seule différence. Est-ce qu'il y a un grand mérite? Non. C'est juste la simplicité de reconnaître son état et de demander l'aide, et de se faire aider. Alors que les autres, ils ne reconnaissent pas qu'ils ont le péché. Ils le justifient. C'est pourquoi la parole dit que le Saint-Esprit viendra convaincre les gens de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit parle dans tous les cœurs. Je vois, hier, on a chanté dans un mariage à 99,99 païens. Dès qu'on a dit, c'est quel chant? Il te sauve de tes péchés. Aïe, 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 aïe. J'ai vu la tête de quelqu'un s'énerver et changer de direction avec ses jambes. Alors, j'ai dit, voilà, pourquoi tu fouilles? Si tu n'as pas de péché, Pourquoi fuir? Moi, aujourd'hui, si quelqu'un d'entre vous me dit qu'il y a un éléphant là, je continue ma prédication. Je sais qu'il n'y a pas d'éléphant. Je ne vais pas faire une discussion de 30 minutes pour prouver qu'il n'y a pas un éléphant ici. Hein? Moi, je vois qu'il n'y a pas d'éléphant. Donc, même si vous tous vous dites qu'il y a un éléphant, je dirais c'est faux et puis je continue ma route. Je continue ma prédication. Alors, mais si quelqu'un, il est convaincu que ce que nous racontons là, c'est n'importe quoi. Oh, mais donc c'est le, qui nous laisse perdre notre souffle, lui, qu'il soit content. Mais non, il sait que dans son cœur, il a des péchés. Mais l'orgueil, il ne veut pas reconnaître. C'est ça la différence entre nous et les autres. La deuxième différence, surtout avec les chrétiens, cow-boys fatigués, c'est les chrétiens, cow-boys fatigués, ils veulent se sauver eux-mêmes encore. Ils sont là, oh, je fais des fautes, je suis indigne. Alors, pour égaliser, ils cherchent les fautes des autres. Pourquoi? Tu veux faire des matchs nuls? Non. Avec Jésus, c'est la victoire. C'est tout. Tu es indigne? Viens. Qu'on te blanchisse dans le sang de l'agneau. Ne cherche pas à faire des matchs nuls en voyant les fautes des autres. Tu dis, bon, match nul, personne n'a gagné. Mais qu'est-ce qu'il y a une compétition entre les chrétiens? Il n'y a pas de compétition. Le seul problème qu'on a, c'est le péché. Et c'est face au diable. On n'a pas observé les autres pour faire des matchs nuls. Lui aussi, il a fait telle faute. Finalement, nous tous, on est pareil. Bon, allez, on y va, dans le mal. Ah, bien-aimé, tu vas te retrouver en enfer et commencer. Mais Seigneur, mais j'avais péché avec tel autre. Il dit, mais lui, il est venu à la machine. Toi, tu n'as pas voulu. Toi, tu as fait le match nul, mais le match nul, il n'existe pas dans le. On ne t'avait pas dit qu'il n'y avait pas de match nul dans les choses de Dieu. Il y a la perte ou la victoire, c'est tout. Qui a déjà vu un match nul dans une finale? Non. Ça finit toujours par un vainqueur. Bien-aimés, profitons du sang de l'agneau et laissons-nous laver. Et si tu es chrétien, que le diable ne te fasse pas perdre du temps en torchant tes péchés. C'est le Saint-Esprit qui, lorsqu'il te révèle tes péchés, tu t'humilies, tu demandes pardon et tu es purifié. Tu continues ta route. La parole de Dieu ne va pas changer. Tout est accompli. Il y a une dame qui était en souci et qui s'est fait accompagner de son fils pour aller écouter un prédicateur. Et le prédicateur disait, dans Jean, comme il est écrit dans Jean 5, en vérité, je crois Jean 5, 24, celui qui vient à moi ne connaîtra pas le jugement, il est passé de la mort à la vie. Cette femme a entendu ça, ah, elle était dans la joie. Tous ses soucis sont partis. Et quand elle est revenue à la maison, elle a même écrit le verset sur un papier. Elle est revenue à la maison, les soucis sont revenus. Le diable était encore là pour dire, ah voilà, tu es encore dans les problèmes. Elle a commencé à s'attrister et son fils lui a ramené le papier, lui a dit, maman, le verset n'a pas changé, il est toujours le même. En vérité, celui qui croit en moi, dit Jésus, ne passe plus en jugement. Bien, mais quelle certitude! Il dit, c'est fini, toi tu ne seras pas jugé. Mais tu es passé de la mort à la vie. Amen. Alors quand le diable nous juge, je dis, moi je ne passe pas en jugement. Je peux être à chaque fois blanchi dans le sang de l'agneau. Ce n'est pas comme je l'ai dit, encourager le mal. C'est faux. Au contraire. C'est quelqu'un qui ne veut pas du mal qui passe dans le sang de l'agneau. C'est ça la réalité, bien-aimé. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui à accepter ce salut gratuit. Et à le vivre aussi gratuitement. C'était les deux faces de ma prédication. Accepte le salut gratuit. Mais toi qui l'as, vis-le aussi gratuitement. Ne cherche pas à produire ton salut. Tu vas te fatiguer et tu vas sortir de la parole de Dieu. Laisse-toi porter par le Seigneur, par la foi en ce qui est écrit. Amen. Prions le Seigneur. Éternel grand Dieu, nous te remercions de nous aider à accepter que tout est accompli à la croix. Accepter que c'est toi qui nous blanchis. Accepter que cela ne se produit pas par nos propres efforts. Que c'est un don, c'est une grâce. Alléluia. Merci Seigneur de nous aider à t'aimer plus que tout en reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous sommes, Seigneur, tristes lorsque nous pensons aux souffrances du Père. Lorsque tu étais à la croix, à ta souffrance. Mais après cela, nous nous disons, s'il a souffert ainsi, alors pourquoi moi je dois encore souffrir? Aide-nous, Seigneur, à rejeter la culpabilité provoquée par le diable. Aide-nous, Seigneur, à nous concentrer sur toi, Jésus, et à passer notre temps à prier pour les autres. Car nous nous sommes déjà mis à part. Tout est accompli, ô Seigneur. Dans ces temps difficiles que nous allons vivre, en cette fin de temps, nous prions que le salut devienne simple dans nos cœurs, que toute forme de complexité quitte notre tête, que comme de petits enfants, nous puissions l'accepter et nous laisser porter par toi. Merci Seigneur. Aide-nous Seigneur, après avoir accepter ce salut facile, à faire comme toi, Seigneur, à sauver beaucoup d'autres, afin que notre joie soit parfaite. Merci, Seigneur.